que nous étions jeunes le jour de notre évasion. Nous aurions dû exulter de nous être enfin échappés de l'étouffante prison où nous étions séquestrés. Dans l'autocar poussif qui roulait vers le sud, nous aurions dû déborder d'une joie à fendre l'âme. Mais si nous éprouvions quelque allégresse, cela ne se voyait pas. Pâle et muet, nous regardions par la fenêtre, effrayés par tout ce qui s'offrait à notre vue. La liberté. Existe-t-il un mot plus merveilleux? Non. Il n'en existait pas, même si les mains froides et squelettiques de la mort se tendaient encore pour nous saisir, à moins que Dieu ne fût quelque part, dans ce car peut-être, veillant sur nous. C'était un des moments de notre vie où nous devions croire à quelqu'un. Les heures s'étiraient au fil des kilomètres. Le car faisait des arrêts fréquents qui nous mettaient les nerfs à vif. Il s'arrêtait pour laisser descendre des gens et en faire monter d'autres. Il s'arrêtait parce que le chauffeur avait besoin de faire la pause ou de manger un morceau. Il s'arrêta pour charger une femme afro-américaine bien en chair qui attendait, solitaire, à l'intersection d'une route secondaire. Il lui fallut une éternité pour grimper et hisser tous les paquets dont elle était encombrée. Quand finalement elle s'assit, nous franchissions la frontière séparant la Virginie de la Caroline du Nord. Oh, quel soulagement de ne plus être dans l'état où nous avions vécu notre captivité. Pour la première fois depuis bien des années, je commençais à me sentir détendue. Nous étions les plus jeunes voyageurs. Chris avait 17 ans, et il était extraordinairement beau avec ses longs cheveux blonds et bouclés qui lui arrivaient au ras des épaules. Ses yeux bleus, frangés de cils noirs, rivalisaient avec l'azur du ciel d'été, et sa personnalité avait l'éclat d'un jour ensoleillé. Il était rayonnant malgré tout ce que notre situation avait de sinistre. Son nez droit au dessin délicat avait acquis depuis peu une force et une maturité qui laissait deviner qu'il serait le portrait fidèle de notre père, le genre d'homme qui fait battre le cœur de toutes les femmes sur lesquelles se posera son regard, et qui le fera battre même s'il se pose ailleurs. Il affichait une expression confiante. Il avait presque l'air heureux. Il l'aurait peut-être même été s'il n'y avait pas eu Carrie. Mais quand il la regardait, son front se plissait et l'inquiétude assombrissait ses yeux. Il se mit à gratter à la guitare accrochée à son épaule en fredonnant « Oh Susanna » d'une voix douce et mélancolique qui me déchirait l'âme. Nous nous dévisageâmes et au souvenir que nous rappelait cette chanson, une poignante tristesse s'abattit sur nous. Nous ne faisions qu'un, Chris et moi. Je ne pouvais pas le regarder longtemps. Je me serais mise à pleurer. Ma petite sœur était pelotonnée en chien de fusil sur mes genoux. Elle avait 8 ans, mais elle était si malingre, si souffreteuse, que l'on aurait dit un bébé de 3 ans. Ses yeux immenses et voilés recelaient plus de noirs secrets et d'obscures souffrances qu'une enfant de cet âge n'aurait dû en connaître. C'étaient les yeux d'une vieille femme. Elle n'espérait plus rien, ni le bonheur, ni l'amour, plus rien. Car elle avait été frustrée de toutes les joies de son enfance. Étiolée et apathique, elle paraissait près de basculer dans la mort. Quelle torture de l'avoir affrontée une si terrible solitude maintenant que Corrie n'était plus là. Moi, j'avais 15 ans. Nous étions en novembre 1960. Je voulais tout. J'avais soif de tout, et ma terreur était de ne pas trouver dans la vie de compensation à tout ce que j'avais perdu. J'étais crispée sur mon siège, et j'aurais hurlé si jamais un nouveau malheur surgissait. J'étais le cordeau d'une bombe à retardement. Je savais que tôt ou tard, j'exploserais et anéantirais tous les habitants de Foxworth Hall. Chris posa sa main sur la mienne, comme s'il lisait dans mes pensées, et devinait que j'étais déjà en train de tirer des plans pour prendre ma revanche sur ceux qui avaient essayé de nous détruire.
« Ne fais pas cette tête, Cathy. »
me dit-il à voix basse.
« Tout va s'arranger. On s'en sortira. »
C'était l'éternel optimiste, convaincu que, en dépit de tout, du pire naîtrait le meilleur. Seigneur, comment pouvait-il encore le croire après la mort de Corrie ?
Il nous faut tirer le meilleur parti de ce qui nous reste, Cathy.
Poursuivit-il.
Et ce qui nous reste, c'est nous. Nous devons tirer un trait sur le passé et repartir de zéro. Nous devons croire en nous, croire en nos talents. Alors nous obtiendrons tout ce que nous voulons. C'est comme cela que ça marche, Cathy. Pas autrement. Il n'y a pas d'autre solution.
Son rêve était de devenir un modeste petit médecin, passant ses journées dans une salle d'examen, au milieu des misères humaines.
Moi, j'aspirais à quelque chose d'infiniment plus exaltant. Et il m'en fallait une vraie montagne.
Je voulais que tous mes rêves romantiques se réalisent. Je serais un jour la danseuse étoile la plus célèbre du monde. Ni plus, ni moins.
Alors elle verrait, maman. La garce.
Je souhaite que Foxworth Hall brûle de fond en comble. Que tu ne dormes plus jamais d'un cœur serein dans ton lit de parade en forme de cygne. Que ton gigolo de mari prenne une maîtresse plus jeune et plus belle que toi. Je souhaite qu'il te fasse souffrir comme tu le mérites.
Cathy,
fit Carrie d'une voix presque inaudible.
Je ne me sens pas tellement bien. C'est tout chamboulé dans mon estomac.
Je fus saisie d'effroi. Son petit visage chiffonné était d'une pâleur anormale, et ses cheveux, jadis si brillants, pendaient en mèches raides et ternes. Sa voix n'était qu'un frêle chuchotement.
Encore un peu de courage, ma chérie,
lui dis-je en l'embrassant pour essayer de la réconforter. Nous allons bientôt t'emmener chez le docteur. On ne va pas tarder à arriver en Floride et une fois là-bas, personne ne nous gardera plus jamais prisonniers. Elle se fit toute molle dans mes bras, tandis que je contemplais d'un air morne les touffes de mousse espagnole qui pendaient aux branches des arbres, signe irréfutable que nous étions toujours en Caroline du Sud. Il fallait encore traverser la Géorgie. Nous étions loin d'être arrivés à Sarasota. Brusquement, Carrie fut prise d'une crise d'étouffement et de nausée. Prévoyante, j'avais rempli mes poches de serviettes en papier au dernier arrêt et je pus l'essuyer. Puis je confiai la petite à Chris et m'agenouillai pour nettoyer le plancher. Mon frère s'installa à ma place et essaya de baisser la vitre pour jeter les serviettes souillées, mais elle refusa obstinément de s'ouvrir malgré tous ses efforts. Carrie, maintenant, pleurait.
« Tu n'as qu'à les glisser entre la banquette et la tôle !»
soufflai-je à Chris. Mais le chauffeur avait un œil de lynx. Il avait sûrement observé notre manège dans le rétroviseur.
Hey, « Hé, les mômes, là-bas »
hurla-t-il.
« Trouvez un autre moyen de vous débarrasser de vos cochonneries !»
Je me résignai, faute de mieux, à tout fourrer dans la poche extérieure de la sacoche du Polaroid de Chris, qui me tenait lieu de sac à main.
« Pardon !»
sanglotait Carrie en s'accrochant farouchement à Chris.
« Pardon, je l'ai pas fait exprès. Dis, est-ce qu'on va nous envoyer en prison ?»«
Mais bien sûr que non. Dans 2 heures, on sera en Floride. Tâche seulement de tenir le coup jusque-là. Si on descendait maintenant, on perdrait le prix des billets et ce n'est pas le moment de dépenser de l'argent inutilement. » À présent, Carrie était secouée de frissons et des gémissements s'échappaient de ses lèvres. Je tâtai son front. Il était moite. Et elle n'était plus pâle, mais livide. Exactement comme Cory peu avant sa mort. Je demandai au bon Dieu d'avoir une fois au moins pitié de nous. N'avions-nous pas assez souffert? Fallait-il que notre martyre se prolonge éternellement? Je me retins pour ne pas rendre moi aussi, quand Carrie recommença à vomir. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait avoir encore quelque chose à restituer. Elle était maintenant presque inanimée dans mes bras. Ce fut le moment qu'un voyageur odieux choisit pour protester d'une voix de stentore. Du même coup, les autres passagers du car, compatissants, prirent un air embarrassé, ne sachant pas trop comment nous aider. Le regard de Chris croisa le mien, chargé d'une question silencieuse. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La panique montait en moi. C'est alors que l'énorme matrone noire se leva et se dirigea vers nous, en tanguant dangereusement, un sourire rassurant sur les lèvres. Elle s'était munie de sacs en papier qu'elle me tendit pour que j'y fourre mes serviettes sales.